Je souhaite la bienvenue à notre intervenante. Je vous ai fait la surprise jusqu'à maintenant. Bienvenue, Andrea. C'est elle qui nous apporte le message. Donc, le culte de ce matin fait partie de la série « Tout le conseil de Dieu » et ce matin, elle va nous parler de l'au-delà. Alors, j'ai encore prié pour elle. Père Céleste, merci pour ce que tu as mis sur le cœur d'Andrea. Merci parce que tu lui as parlé. Merci parce qu'elle s'est mise à ton écoute. Et nous nous réjouissons d'entendre ce que tu veux nous dire par sa parole ce matin. Nous te demandons vraiment qu'elle ait cette liberté de nous transmettre ce que tu lui as mis sur le cœur et que nous soyons prêts à recevoir ce que tu désires nous dire. Merci. Amen. Amen.
Bonjour. Je me disais, mais l'essentiel a déjà été dit aujourd'hui. Et tout à l'heure, il nous a été dit que ce n'est pas une religion, ce qu'on vit, mais une histoire d'amour avec Dieu et que Dieu désirait nous parler. Alors, quelque part, c'est la responsabilité de chacun d'entre vous d'être à l'écoute du Seigneur à travers ce que je vais apporter, de discerner et de prendre... Voilà, ou même d'écouter Dieu dans ce que j'aurais pas dit, qui manque, parce que c'est un grand sujet. Et puis, voilà, je le fais en toute simplicité. Je vais vous lire dans 1 Corinthiens 15, les versets 17 à 20. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Ailleurs, il s'est dit, elle est vaine. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts, unis au Christ, sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Alors, je ne vais pas vous faire une étude du thème de l'au-delà au niveau théologique. Je vais plus venir avec mon propre vécu et qu'est-ce qui m'a parlé à moi durant ma vie. Moi, j'ai accepté ce thème parce que la question de l'au-delà, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie, mais depuis toute petite. Et ça, je pense que ça vient du fait que j'ai été élevée par des parents qui étaient survivants de guerre. Donc, ils ont côtoyé la mort tout le temps, des morts violentes. Et ce qui fait que, d'une façon latente, la question de l'au-delà, c'était quelque chose qui vraiment pouvait tout le temps nous travailler pour chercher un sens, en fait, à nos vies. Et puis... Au niveau professionnel, vous savez que je suis aumônière et une des facettes les plus importantes de mon travail, c'est justement d'accompagner les personnes jusque dans leur entrée dans l'au-delà ou de répondre ou d'accompagner les familles qui, elles, restent avec beaucoup, beaucoup de questions. Donc, c'est aussi une partie de ma vie qui est consacrée à ça. Et puis, il y a une autre raison aussi, c'est, donc je viens de Hongrie, et là-bas, beaucoup de personnes meurent à domicile. Et c'est les membres de la famille qui les accompagnent. Ce qui fait que j'ai le privilège d'avoir souvent entendu lors des enterrements la transmission des anciens par rapport aux choses qui concernent l'au-delà, comment ils ont vécu l'accompagnement et comment ils vivent ce passage où on bascule vers l'au-delà. Et c'est vraiment au moment de la mort de quelqu'un ou des enterrements qu'en fait cette transmission se fait le plus, justement pour que les jeunes puissent à leur tour accompagner les personnes. Je pense aussi que quand on vient d'une famille où il y a eu une disparition massive des membres de la famille, ce qui a été le cas dans la famille de mon père à cause de la Shoah. Et aussi parce qu'après, sous le communisme, il y a eu beaucoup de disparitions. Il y a tout le temps une recherche de sens parce que la vie, elle est tellement courte et quand elle est interrompue brutalement, si tout est joué ici et maintenant, eh ben, il n'y a pas de sens. Vraiment, ça pose un problème. Hein. Donc, les pays qui ont connu la guerre, des totalitarismes ou des génocides ou comme ça, ils sont obligés de se poser des questions et c'est quand même la majeure partie de notre monde qui se pose vraiment les questions pour l'au-delà et pour qui répondre à cela est hyper important. Maintenant, il y a une autre raison aussi pourquoi je suis touchée par ça, c'est qu'à ma naissance, j'ai été tout de suite mise dans des appareils dans un autre hôpital. Et à l'époque, on a réussi à faire survivre des enfants qui normalement mouraient sans les toucher, leur parler, leur donner la chaleur dont ils avaient besoin. Et moi, je fais partie de cette génération qui a, en guillemets, survécu, mais qui a grandi avec des angoisses existentielles très fortes parce que le sentiment d'exister, de bien-être, de paix s'inscrit dans le petit quotidien à travers le toucher, les paroles, l'affection qu'il reçoit et pas, il n'est pas qu'un tube digestif. Donc là aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup sensibilisée. Vous verrez plus tard. Et puis, ma grand-maman, elle a aussi joué un rôle là-dedans. Parce qu'elle m'a raconté une histoire, justement, quand elle accompagnait quelqu'un qui décédait et qui, au moment où elle partait, tout d'un coup, elle a dit « Oh, mais j'arrive au ciel et c'est un endroit mais magnifique, c'est comme un parc. » Et puis, il y a des fleurs. Enfin, elle a commencé à décrire ce qu'elle était en train de voir. Et ma grand-mère m'a dit « Tu sais, Andrea, on a senti l'odeur des fleurs. » Dans toute la pièce, ça sentait les fleurs. Et moi, ça m'avait vraiment marqué dans mon imaginaire. Alors, bien sûr, on peut dire beaucoup de choses à ce sujet. Alors, les incrédules diront qu'elle a... Voilà, mais ils étaient plusieurs. Mais alors, ils se sont peut-être... Ils y croyaient tellement qu'ils ont comme auto-suggéré leur expérience. Est-ce que notre foi peut provoquer ça, nous faire ressentir des choses qui n'existent pas? Ou bien est-ce que c'était un hasard? Il y avait la fenêtre ouverte, un petit coup de vent, et puis hop, l'odeur des fleurs qui rentre dans la chambre. Je vous dirais que c'est des questions que je ne me suis pas du tout posées avant. Hein. Quand j'étais enfant, moi, j'ai simplement cru. Après, on peut aussi se dire, mais Dieu, il a soufflé ce parfum à l'intérieur de la pièce à ce moment-là pour dire, ce que vous sentez ici et maintenant, c'est qu'un petit pâle reflet de ce que vous allez vivre après. Ou bien, comme ma grand-mère le croyait très fermement, pendant quelques instants, il y a eu une ouverture sur l'au-delà et que les sens ont pu percevoir quelque chose de ça. Alors en fait, c'est nous qui choisissons ce que nous voulons croire. Ou bien on se met aussi devant Dieu et voilà, on se laisse conduire par ce qu'il nous dit. Juste, on va parler du ciel. Alors, dans la Bible, il y a trois dimensions de ciel. Alors, je ne suis pas théologienne, hein, mais de ce que j'ai compris, il y en a un, c'est le ciel où on voit les oiseaux voler. L'autre ciel, c'est les étoiles, hein, le cosmos, et voilà, tout ce qu'on peut admirer dans les galaxies. Et puis le troisième ciel, qui est là où Dieu habite. Et dans la Bible, par exemple, 120 fois, il est parlé du royaume de Dieu, du royaume des cieux, et c'est dans la bouche de Jésus la plupart du temps. Donc c'est une question vraiment importante, l'au-delà. Alors, mon témoignage, c'est que ma conversion, je l'ai eue à 11 ans et je me rappelle, j'avais tellement peur de souffrir et j'avais peur de la mort. Et Dieu m'a dit déjà à ce moment-là, toute petite, il dit, mais t'as pas la force ni le courage de mourir et d'aller dans l'au-delà parce que c'est pas le moment. Je vais pas t'encombrer maintenant de la force de mourir alors que t'es appelée à vivre. Et ça... Ça m'a beaucoup aidée à donner mon cœur au Seigneur, de lui faire confiance, qu'il sera là le jour où je devrais moi aussi passer ce cap. Et c'est quelque chose qui m'aide énormément dans l'accompagnement, par exemple, quand quelqu'un apprend qu'il a une maladie qui va l'emporter, puis qu'il est tout surpris, s'attendait pas du tout, puis moi j'arrive et puis je dois, voilà, entourer la personne à ce moment-là. Et je prends toujours l'exemple d'un fruit qu'on nous donne, qui est acide, qui est vert, et qu'on ne peut pas manger, effectivement, mais qui va mûrir. Et dans le moment où ça viendra, eh ben, la force et ce qu'il faut sera là. Et je suis frappée de voir à quel point c'est la réalité. Et j'ai eu plein d'histoires comme ça où j'ai vu les choses mûrir et pour chaque étape, Dieu, il est là. Et puis, il y a une autre chose aussi qui m'a beaucoup aidée. Quand on a cette angoisse de séparation, de sentiment de non-exister, on a très peur du néant. En fait, c'est comme si on l'avait connu, étant tout petit, ça s'est inscrit dans nos émotions, dans nos sens. Et après, on grandit avec des terreurs un jour de tomber dans le vide, dans le néant. Et je me rappelle, dans ces moments de crise, une fois, Dieu qui m'a parlé, puis qui m'a dit, tu vois, Andrea, moi, je suis le grand je suis. Toi, tu es une toute petite je suis. T'as pas été construite comme t'aurais dû être. Aujourd'hui, on sait comment on doit faire avec les bébés comme ça, qui survivent dans les appareils et tout. Mais ton sentiment d'exister, il est relié à mon existence même. Alors viens vers moi, sois proche de moi. Et vous vous rendez pas compte le bien que ça m'a fait de relier mon petit sentiment d'inexistence au grand Dieu qui existe, de le lui dire, de le proclamer. Et dans les moments de crise comme ça, existentielle, c'est quelque chose vraiment qui m'apaise et c'est une des raisons pour lesquelles je ne peux pas personnellement passer beaucoup de jours, par exemple, sans culte personnel. Assez rapidement, les angoisses vont me rappeler que j'ai besoin de me reconnecter et que cette solidité vienne en moi. Alors maintenant, vous allez vous rendre compte, je n'ai pas fait un travail très ordonné. Je vais vous donner une douzaine de petites choses qui m'aident par rapport à l'au-delà ou des choses où Dieu m'a parlé. Alors, on va d'abord se pencher sur notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus. Moi, je suis très sensible aux paraboles parce que c'est incroyable le nombre de fois où Jésus s'est comme gratté la tête et s'est dit « j'ai envie de leur parler de l'au-delà ». Hein, du royaume des cieux, à quoi je vais comparer pour qu'ils comprennent, parce que c'est tellement autre quand même, et il prend des exemples de la vie courante. Plus, alors nettement plus de la moitié des paraboles parlent de l'au-delà, hein, d'une façon ou d'une autre. Le contexte, c'était qu'au temps de Jésus, le groupe des juifs croyants étaient partagés en deux, les pharisiens qui croyaient en la résurrection et les sadducéens non. Et Jésus, pour les convaincre, c'est dans Matthieu 22, va leur dire, mais Dieu, il est le Dieu des vivants. Donc quand il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Voilà, Jésus, très souvent, il est très simple pour dire, mais en quoi est-ce que vous croyez en fait ? Avant d'aller plus loin, maintenant, dans notre Occident, quand on parle de la parole de Dieu, beaucoup de gens, pour eux, c'est plus du tout un livre sacré. C'est profondément remis en question. Il y a toutes sortes d'émissions, d'articles, de tout ça qui paraissent là. Mais ce qui est, je dirais, plus troublant, et moi je le vois dans des proches, c'est le nombre de chrétiens qui tout d'un coup remettent en question l'intégralité de la parole de Dieu et son inspiration, en disant oui, mais il y a eu des erreurs, pourquoi ce seraient ces livres qui sont importants alors qu'il y en a d'autres et tout ça. Et là aussi, bah, on est devant le choix de la mettre de côté, ou bien de la lire en triant et garder ce qui nous arrange, ou bien au contraire de la prendre, la serrer sur notre cœur. Mais là, on doit avouer, et c'est vrai, qu'il y a des textes qui ne nous arrangent pas spécialement, ou même d'autres qui peuvent franchement nous stresser, et certains qui concernent justement l'au-delà. Et je pense que c'est important d'avoir cette honnêteté, je dirais, émotionnelle et intellectuelle, d'en parler avec Dieu, de dire... C'est pas évident, et vous allez vous rendre compte avec les sujets que je vais prendre... Il y a tout le temps comme une tension entre deux choses. Et pour nous, les humains, c'est ou bien l'un ou bien l'autre est juste. Tandis que pour Dieu, les deux sont justes. Il arrive à concilier en lui l'inconciliable. Et voilà, on a besoin de lui par rapport à ça. Alors moi, je suis très simple. Hein. Je me dis, puisque Jésus a été clair, que c'est ceux qui ressemblent à des petits-enfants qui arrivent à entrer dans le royaume des cieux, que si on ne leur ressemble pas, ben, on va pas y arriver. Alors moi, je pars du principe que ce Dieu-là, qui a été capable de créer la terre, la mer, le ciel et tout ce qui se trouve, il est aussi capable de nous faire parvenir, la Bible qui veut nous faire parvenir, surtout à l'heure où des milliards de personnes peuvent avoir accès à cette Bible-là. Voilà, alors moi je simplifie, puis je la prends telle qu'elle. Alors, si on a un cœur sensible, ben, ça va nous faire quand même trembler. Par exemple, Dieu au cœur maternel et paternel. Ok, ça, on est d'accord, on a cette révélation-là, plus ou moins. Mais comment ça se fait que ce même Dieu, il a pu commander des génocides avec des enfants, avec des innocents, enfin, des choses qui peuvent vraiment nous bouleverser, qu'aujourd'hui, mais jamais de la vie, on serait d'accord avec ça. Alors, je vais venir avec d'autres sujets maintenant qui concernent justement l'éternité. Alors, d'un côté, on a la révélation de l'amour inconditionnel de Dieu, du Père et de son Fils, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui vient sauver le plus grand nombre possible, sans faire exception de personne, qui donne sa vie pour ses brebis. La parabole des petites brebis, de la petite brebis qui est partie. Par bêlée, elle ne fait pas grand-chose, j'imagine. Mais Jésus la sauve. La même chose pour l'amour inconditionnel du Père envers ses deux fils. Voilà. Et puis d'un autre côté, il y a plein de paraboles qui nous parlent de tri, de gens jetés dehors, de Jésus qui dit « mais je ne vous connais pas », des lieux où il y a des pleurs, des grincements de dents, des regrets éternels, le jugement, l'enfer, quoi. Comment on fait pour concilier cela? Un Dieu qui jette pour la nuit des temps ses petites créatures bien-aimées, au bout du compte, quand même. Alors moi, j'ai besoin d'en parler avec Dieu. Alors peut-être vous, pas, hein, on n'est pas tous les mêmes. Moi, j'ai besoin de venir vers lui et de lui dire « mais moi, je ne comprends pas, je ne sais pas, je vois bien, j'accepte, c'est écrit. Mais je ne sais pas quoi faire avec ça et comment, et surtout si je parle comme ça de notre monde, ça va vraiment être rejeté en vrac parce que c'est culpabilisant. Voilà, ça crée une imperméabilité. Alors voilà quelques réflexions qui m'aident. La première, c'est quand des personnes meurent, sans avoir confessé le nom de Jésus, sans avoir accepté Jésus dans leur cœur. Moi, je suis si heureuse à ce moment-là de me rappeler que mon inquiétude et mon désir pour eux d'être une éternité avec Dieu, mais c'est rien à comparer que l'amour que Dieu a pour ces personnes-là. Et ça m'apaise, ça me calme. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, ils sont quand même au meilleur endroit qu'ils soient. Face à un Dieu juste et tellement aimant. Je ne sais pas comment, quoi, mais voilà, ça m'apaise déjà. Et puis, je me remémore un passage souvent qui dit « ce n'ont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur hein, » que je connais, moi. » C'est Jésus qui dit ça. Donc, ce n'est pas ceux qui me confessent et qui disent « Jésus, Jésus ». On dit souvent qu'il faut confesser pour être sauvé. Ils disent « c'est ceux qui font ma volonté, la volonté de mon Père ». Et c'est ceux qui m'ont donné à manger quand j'avais faim, qui m'ont nourri, qui m'ont habillé quand j'étais nue, qui m'ont visité quand j'étais malade, qui ont été en prison. Et puis alors les disciples disent « mais t'as jamais été en prison, on t'a pas habillé ». Mais c'est toutes les fois où vous avez fait ça pour un de ces plus petits. Alors moi ça me touche, je me dis « ah, Jésus il reconnaît les siens, il sait comment faire pour les retrouver ». C'est pas à nous de juger. La troisième chose, c'est que des fois, moi, je suis en contact avec des personnes qui ont cru en Dieu et qui après disent très clairement, moi, c'est fini. J'ai perdu mon père quand j'étais petit. Après, ma mère a dû travailler. Après, j'ai perdu mon mari alors que j'étais jeune. Et j'ai perdu mon fils alors qu'il avait à peine 30 ans. Et puis, en plus de ça, je dois encore aller les visiter. Puis, j'apprends qu'ils ont une maladie horrible qui produit des grandes souffrances. Et je vais leur parler de l'amour de Dieu. Je vous assure, hein, c'est pas du tout évident. Et moi, ce qui me frappe, c'est que quand je viens les aimer, quand je viens les écouter dans ce qu'ils ressentent, dans ce qu'ils vivent, puis que je leur dis, écoutez, j'ai aucune preuve, hein, mais voilà en quoi je crois. Et j'espère tellement que c'est comme ça pour vous aussi. Eh bien, très souvent, même la plupart du temps, ils me disent, ah, merci, j'y crois pas, mais ça m'a fait tellement du bien. Vous revenez hein, la prochaine fois. Et ça me touche parce que je me dis, bah, Jésus, il est en moi. Et je le leur dis. Je leur dis, ben voyez, ce matin, moi, j'ai prié, j'ai demandé à Jésus de venir en moi. Et je me dis, bah, quelque part, ils ont accueilli Jésus aussi à travers ce que je suis venue leur apporter. Même s'ils ne le confessent pas, même s'il n'y a rien de religieux, même si, bah, moi, ça m'apaise de nouveau. Je me dis, d'une façon ou d'une autre, en nous accueillant, ils accueillent quelque chose de Jésus. Donc après, je ne me fais plus de soucis, je vais de l'avant comme ça. Et puis, par rapport à l'au-delà, moi j'ai besoin d'un au-delà. Parce que justement, et c'est comme ça pour la plupart des gens dans ce monde, si tout était joué ici et maintenant, leur vie n'aurait aucun sens. Rien qu'à voir, excusez-moi, hein, mais ces milliards d'enfants qui sont morts par la famine, par la guerre, par la maladie, par l'avortement. Alors, s'il n'y avait rien, ça s'arrête là. Et c'est marrant que je le dis à des personnes non chrétiennes, non croyantes ou qui ont d'autres croyances. Ils me disent, mais vous avez de la chance de croire ça. Vous avez de la chance, ça leur fait envie quand même. Et ça me plaît. Par rapport à l'injustice subie sur cette terre où aucune vraie justice n'a été rendue, moi j'ai écouté il y a un mois deux procès des nazis hein, de la Deuxième Guerre où vraiment et ceux qui étaient jugés mais ils ont quasi rien payé par rapport aux horreurs qu'ils ont produites. Et puis comme ça a eu lieu dans ma famille aussi et que justice n'a pas été rendue, et que c'est tous les jours qu'on paye aujourd'hui de ce qui a été fait une génération avant. Parce que ça a des conséquences chez les descendants. Hein. On sait que ça change même aujourd'hui, même génétiquement par rapport aux angoisses, par rapport à beaucoup de choses. On voit des maladies qui se développent particulièrement chez les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ceux qui ont vécu la Shoah. Donc, des études sont faites là-dessus. Donc, il y a vraiment à pardonner. Alors moi, ça m'aide beaucoup de savoir qu'il y aura une justice. Que ça ne s'arrête pas là. Moi, j'ai soif d'une vraie justice. Vraiment, Dieu qui juge. Alors, j'aime beaucoup, par exemple, ce texte des Hébreux 10 qui dit « À moi la vengeance », c'est Dieu qui me parle. Hein. « À moi la rétribution, c'est à moi qu'il appartient de faire justice et c'est moi qui rendrai son dû. » Et c'est rajouté, et encore, le Seigneur jugera son peuple, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors oui, moi, d'un côté, ça me plaît. Ça me plaît ce côté-là, même si peut-être ça vous choque que je parle comme ça, mais ça m'aide à libérer mon pardon, à pas vouloir me venger, à me dire ça m'appartient pas. Moi, j'ai pas envie d'être liée à mes offenseurs qui précèdent, ni ceux d'aujourd'hui. Je veux être coupée d'eux et de leur enfance, donc je pardonne. Ça va être réglé un jour. Mais là où tout d'un coup je me sens interpellée, et ça c'est le point qui vient tout de suite, c'est que Jésus nous dit qu'on va être jugé comme on juge, et que la mesure employée, que je désire qu'il soit employé pour mon prochain, même mon pire ennemi, peut être la mesure qui sera employée vis-à-vis de moi. Alors, je me rappelle que j'ai tellement besoin de la grâce de Dieu, et que la grâce, c'est un lieu, et c'est un lieu dont je veux pas bouger. Et c'est là où on sent la tension, parce que d'un côté, on a besoin de Dieu qui fasse justice, et d'un autre, qu'est-ce qu'on est content que la grâce existe et qu'elle se manifeste envers nous. Et normalement, on est appelé à la désirer pour tous. Hein? Donc voilà, je me rappelle que de pas juger, que c'est facile de voir la paille qui est dans l'œil de mon voisin, alors que moi j'ai une poutre, et puis vous savez, poutre Jésus, il est drôle quand il dit ça, un poil même invisible qui est dans notre œil et on voit plus rien, hein. C'est trois fois rien, et on a vraiment l'impression qu'on a une poutre, hein, parce que voilà. Moi j'aime aussi les paraboles, malgré que je viens de parler de la grâce, hein, qui parlent du tri. Dans l'éternité, il y aura des tris. Ça veut dire que dans l'au-delà, les choses elles seront pas mélangées. Moi, ça me plaît aussi. Moi, je vous avoue, j'ai pas envie de vivre une éternité avec des gens fourbes, avec des gens qui écrasent les faibles, avec des gens qui ont pas d'amour, avec ceux qui veulent profiter de la vulnérabilité des gens, se venger ou détruire toute pensée de Dieu. Moi, j'ai pas envie de vivre avec cela. Donc, qui a un tri, je suis bien contente. Mais en même temps, de nouveau, la parabole du bon grain et de l'ivraie me parle beaucoup. Parce que je me rends compte que dans ma propre vie, qu'est-ce que j'aimerais faire ce tri déjà maintenant? Alors, j'aime beaucoup cette parabole parce que on dit la parabole de l'ivraie et du bon grain, on ne devrait pas dire ça. Parce qu'avec Dieu, c'est la parabole du bon grain. Ça commence par le bon grain. On est dans cette période intermédiaire où il y a l'ivraie. Mais après, il y aura de nouveau plus que le bon grain. Et donc, c'est bien l'histoire du bon grain. Et moi, ça m'aide, vraiment. Il y a une petite histoire que C.S. Lewis raconte dans Le Grand Divorce. C'est l'histoire d'un homme qui a terrorisé sa femme toute sa vie, qui arrive au ciel, et puis qui veut continuer à la terroriser, puis qu'il la tient attachée à lui par une chaîne. Puis en fait, on voit, c'est comme si l'ivraie était petit à petit ôté de sa vie. Eh ben, il rétrécit, il rétrécit, il rétrécit. À la fin, il a la grosseur d'un insecte qui court comme ça sur la chaîne. Alors, j'aime bien cette idée que tout ce qui peut être sauvé est sauvé. On espère la plus grande partie, mais parfois il reste très peu. Mais j'aime bien ce côté humoristique de C.S. Lewis. Je lisais dans un autre livre que le problème qu'on a en tant que chrétien par rapport à l'éternité, c'est peut-être pour ça qu'on se réjouit pas assez, puis qu'on s'enracine trop ici, c'est qu'on manque d'imagination. Et il disait dans le livre, ces deux hommes qui écrivaient ce livre, qui disaient, non d'une pipe, si on est assis à écouter des gens habillés en blanc qui jouent de la harpe pendant une éternité, mais on va mourir. Et c'est vrai, on manque d'imaginaire. Alors, moi, vraiment, pour moi, l'au-delà, c'est important. Plus dans le sens, ça va être génial parce que tout ce qu'il y a de merveilleux et que j'aime tellement sur cette terre, comme des choses merveilleuses dans la nature, les saisons, la beauté des animaux, les bonnes choses qu'on peut manger, l'amour qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres, enfin tout ce qu'on peut vivre de bien, de beau, ces musiques qui nous transportent, on a l'impression, c'est transcendant. Tout ça, c'est un petit reflet de ce qu'on va vivre après. Donc, c'est pas du tout, voilà, mais ça sera exemple de tout ce qui gâche ces choses-là. Je me rappelle que j'étais petite, comme j'avais un père qui avait tellement souffert la persécution et des humains, il nous avait dit, il y a de vrai et de bon que la nature. Alors moi, depuis toute petite, mon Dieu, c'était la nature. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'allais observer les animaux, les insectes, bah, qu'il y avait des araignées qui bouffaient les abeilles. Et j'étais chaque fois horrifiée. Je me disais, c'est fou, je vais dans la nature, mais je vois le drame à chaque instant. Et bah, c'est ça qui aura plu. C'est qu'on y va, mais ce sera que bien, que beau. J'aime aussi énormément cette pensée tellement délicate de Jésus quand il dit « Faut pas que vous soyez troublés, hein. Ayez confiance en Dieu et aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place en effet. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Et moi, ça m'arrange qu'il y ait pas mal de demeures et qu'il en prépare une pour moi. Parce que ce que j'aime moi, c'est pas nécessairement ce que l'autre aime. Ça veut dire que c'est adapté à notre condition, à nos goûts, à nos couleurs. On va pas être enfermé dans un endroit qui n'est pas nous ou d'un coup de baguette magique. Il change nos goûts et puis tout d'un coup, on est quelqu'un d'autre. Moi, je vois pas tellement les choses comme ça. Donc, on peut développer nos goûts, on peut même lui dire qu'est-ce qu'on aimerait, qui nous ferait plaisir après tout. Hein. Et puis, on lui laisse la liberté que ce soit encore mieux. La doctrine des récompenses. Vous savez que Jésus parle énormément des récompenses. On est dans un monde où on n'ose plus parler des récompenses. Je vous donne un exemple. On n'ose plus dire aux couples qui se battent pour tenir le coup alors qu'ils vivent vraiment des difficultés, qu'il y a des problèmes de compréhension, d'incompatibilité, de stress et tout ça, de dire, vous savez, dans ce monde, que vous restiez ensemble, vous battiez pour maintenir votre couple jusqu'au bout, eh bien, ça compte beaucoup pour Dieu. Vous savez pourquoi on n'ose plus le dire? Ben, à cause de toutes les personnes qui n'ont pas réussi puis qui se sont divorcées. Puis on se dit, mais on ne veut pas les culpabiliser. On ne veut pas les mettre en difficulté. Mais à eux, on pourrait aussi dire. Moi, je vais plutôt vous lire un petit texte qu'une fois le Seigneur m'avait donné. Et ça parle que pour Dieu, rien n'est banal, rien n'est ordinaire. Tout compte. Même quelqu'un qui a été fidèle à Dieu et par exemple abstinent dans sa sexualité pendant 20 ans, puis après qui on voit tout promener, et puis qui vraiment, il vit la totale. Vous croyez que ces 20 ans, Dieu va les oublier? Moi, j'ai cru pendant longtemps. J'ai vraiment cru que, excusez-moi, hein, mais que Dieu allait regarder autant l'ivraie que le bon grain. Non, il va venir un jour, il enlève le mauvais, c'est la Bible qui le dit, ce sera lui qui fait ce travail. Après, il ne peut pas le faire maintenant, parce qu'il aime tellement le bon grain, et il sait que s'il arrachait maintenant, l'ivraie, le bon grain serait arraché avec. Donc on est dans cette période où vraiment l'ivraie est très haute, puis on a de la peine à voir le bon grain dessous. Mais bientôt, ce sera arraché et trié. Alors je vous lis un petit texte qui, moi, m'a fait tellement du bien. C'est « Mais Andrea, en quel Dieu crois-tu vraiment? Tu penses que cela ne compte pas pour moi, celui ou celle qui persévère dans son couple, malgré l'agressivité, la passivité, l'indifférence aux besoins exprimés, les tromperies du conjoint qui reste dans l'alliance conclue à trois avec moi-même? Ou celui ou celle restée seule et qui vit quelques heures, quelques jours, quelques mois ou années dans l'abstinence? Tu crois que je suis indifférent à cela? Que j'oublierai celui ou celle qui chaque fois qu'il ou qu'elle tombe dans le mal, eh bien me demande pardon, va à la croix et se relève et lutte encore, et qui malgré qu'il chute, revient à moi chaque fois? Je n'en tiendrai pas compte, c'est ainsi que tu me vois? Avec moi, rien n'est négligé, rien n'est oublié, rien ne se perd, tout se retrouve et tout se rachète. Et moi, ça me fait du bien d'appartenir à un Dieu comme ça. Parce que Jésus l'a promis. Il l'a promis et beaucoup de ses paraboles parlent en ce sens. Un point qui m'aide aussi, c'est de reconnaître que ce en quoi je crois, j'en ai pas la preuve aujourd'hui. Et il faut vraiment que j'ai l'humilité de le reconnaître. Parce que, voyez-vous, quand quelqu'un décède, et par exemple la famille pratique l'occultisme, ne veut rien de religieux, même demande de faire la cérémonie d'adieu. Alors, je dois passer du temps avec ces personnes-là et les écouter, donc quoi, ils croient. Et je vous dis, c'est pas triste, hein, des fois. Il y a beaucoup de croyances et aussi d'occultisme, et je suis là. Et je m'intéresse, j'écoute et tout ça. Puis au bout d'un moment, je leur dis, voyez, vous croyez en ça? Mais vous êtes d'accord, hein? Vous n'avez pas la preuve que ça va être comme ça après, ou que c'est comme ça dans l'au-delà. Moi, j'ai le même problème. Mais vous me permettez de vous dire, moi, en quoi je crois et pourquoi je crois? Ça, c'est mon espérance à moi. Une fois que je les ai bien écoutés, la plupart du temps, ils écoutent. puis ils disent « Ah ben, c'est intéressant, puis c'est vrai ce que vous dites, quand même, on n'en sait rien en fait. » Et cette position d'humilité, ça crée une attitude d'ouverture qui fait qu'après, moi, j'apporte mon message et d'une façon très claire, mais très adaptée au langage de la personne avec qui j'ai parlé, je peux annoncer carrément tout l'évangile. Et ça a été le cas chaque fois. Et après, on me remercie, on dit « Ah ben merci, parce que vous n'avez vraiment pas cassé les pieds avec les bondieuseries et puis tout ça. » Et je me dis « C'est incroyable, parce que si, quand même. » Mais mais voilà, c'est ça passait parce que on a reconnu qu'on était humain et que l'au-delà, face à l'au-delà, on a tout intérêt à dire, à pas venir « Oui, c'est comme ça, moi je sais que c'est comme ça, etc. » C'est inaudible à notre époque. Vraiment. Alors, pour terminer, en conclusion, j'aimerais vous lire un texte. Voilà, c'est Jésus qui se retrouve avec une foule qui le suit déjà depuis plusieurs jours, qui sont malades, qui ont des mauvais esprits. Et puis, Jésus vient les guérir, les sauver, les libérer et tout ça. Et puis, il se retrouve avec une foule immense qui arrive. Il les regarde, il monte plus haut sur la colline. Il monte, il s'assoit. Ses disciples viennent auprès de lui, puis Jésus prend la parole, puis les enseigne. Alors, j'ai pris Matthieu 5, Luc 6, et puis Apocalypse 21, et puis je l'ai paraphrasé. Donc, c'est pas exactement comme ça. En fait, j'ai pris plusieurs traductions différentes, je les ai assemblées, et puis j'en ai fait un texte. Alors, vous imaginez Jésus qui voit ces gens qui sont réellement pauvres, réellement qui ont faim et soif de justice. Ces gens-là, s'ils ne pouvaient pas payer leurs impôts aux Romains, ils risquaient qu'on prenne leurs enfants comme esclaves. C'était pas de la rigolade, hein. Vous pouvez imaginer leur soif de justice. Et puis, ils étaient humiliés. Ils étaient vraiment en sursis. Et en plus de ça, Jésus parle de la persécution, mais ils savaient très bien que ces gens-là, quelques années après, Jésus en parle, hein, bah, qu'ils allaient subir ce que Titus allait faire, c'est-à-dire mettre Jérusalem à feu et à sang. Et qu'il y aurait de nouveau l'éclatement du pays et la diaspora partout dans le monde des Juifs. C'était ces gens-là qu'il avait sous les yeux. Quand il voyait un petit enfant courir, il savait que normalement ce qu'il allait vivre quelques années après. Donc pour moi, quand il dit les béatitudes, il est justement en train de dire aujourd'hui ou un jour, souvenez-vous-en, vous allez vivre ou vous vivez ça. Mais après, ce sera autre chose. Réjouissez-vous, ça ne sera pas toujours comme ça. Ce que vous vivez sur la terre, ok, c'est difficile. Et juste pour vous dire, on est un groupe de personnes en train de préparer la suite des enseignements concernant l'identité sexuelle et tout ça. Et vous ne vous rendez pas compte de la difficulté qu'on a eue quand on a commencé à vouloir faire. Parce qu'on s'est rendu compte que quoi qu'on dise, au niveau de la loi, au niveau de ce que les gens pensent, au niveau de ce qui est dit, mais on n'y arrive pas. Et à un moment donné, on était tellement intimidés qu'on s'est dit, mais on a peur, nom d'une pipe. On a peur de la persécution. On s'est dit, on fait comment alors pour avancer? Vous savez ce qu'on a fait? On s'est tourné vers des ministères qui travaillent parmi les chrétiens persécutés. Et on leur a demandé de recevoir les enseignements qu'ils donnent aux chrétiens persécutés pour nous préparer à la persécution, pour que ça nous apaise et qu'on ait le courage d'aller de l'avant. Et ça fait bientôt presque une année, hein, qu'on est en train de se laisser enseigner dans un cours de disciples pour les chrétiens persécutés, qui est quand même une majorité dans le monde. Ben, ça n'a rien à voir la plupart du temps avec ce qu'on enseigne ici. Hein. C'est juste magnifique. C'est juste tellement beau. Et là, on se rend compte que pour eux, comme pour nos ancêtres, hein, vivre ici, c'est court. Ça passe très très vite. C'est juste un pèlerinage. Mais ce qui nous attend après, c'est juste génial, c'est magnifique. Et Jésus essaie comme ça d'encourager. Les béatitudes, c'est d'abord ça. Et c'est vrai qu'il est dit, ceux qui veulent suivre fidèlement le Seigneur seront persécutés. On va très rapidement se trouver dans des situations où quand on osera ouvrir la bouche, on va la sentir passer. Hein. Et on fait bien de nous préparer à ça. Alors, je vous lis ces promesses parce qu'elles sont encourageantes. Vous vous reconnaissez comme pauvres spirituellement, vous en êtes conscients. Vous allez devenir les plus heureux parce que le royaume de Dieu vous appartient. Vous êtes humble et doux de cœur, mais c'est la terre que vous recevrez comme un don de Dieu. Vous aspirez de toutes vos forces à vivre comme Dieu le demande. Vous êtes affamé de justice. Vous serez tellement pleinement comblé. Vous avez faim maintenant. Un jour, vous serez heureux, car vous serez totalement rassasié. Si votre cœur est compatissant, sensible à la misère d'autrui, Dieu aussi aura compassion de vous. Vous êtes sincère et droit, heureux de répandre autour de vous la paix. Vous verrez Dieu et il vous reconnaîtra comme ses enfants. Si des hommes vous accablent de leur mépris et de leur haine, s'ils coupent toute relation avec vous, s'ils vous insultent, s'ils vous rejettent comme des malfaiteurs, en vous accusant de toutes sortes de méfaits parce que vous vous déclarez « mes apprentis, mes disciples », réjouissez-vous, soyez heureux, sautez de joie, parce qu'une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Vous êtes de la lignée de vos devanciers, les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés de la même manière. Aujourd'hui, peut-être vous pleurez, vous vous lamentez, mais je vous consolerai. J'habiterai moi-même votre Dieu avec vous, et vous serez mon peuple, purifié de tout opprobre. J'essuierai toute larme de vos yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Moi, le Seigneur l'Éternel, j'anéantis la mort pour toujours, et la mort ne sera plus. Et dans l'Apocalypse, ça se termine, parce que ça c'est un texte de l'Apocalypse, et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces choses, car ces paroles sont certaines et véritables. » Je vais prier. Père Céleste, on a passé cette matinée en ouvrant nos cœurs à toi, en désirant nous laisser enseigner par toi. Et Seigneur, tout ce qui nous relie à l'éternité, selon ton cœur, c'est une œuvre de ton Saint-Esprit dans nos vies que nous voulons appeler aujourd'hui. Seigneur, je te demande de bénir chacun d'entre nous pour que dans notre histoire d'amour avec toi, tu puisses nous parler de la valeur des choses que nous vivons ici sur la terre et qui comptent tellement pour toi. Le moindre geste, la moindre bonne pensée, le moindre souhait de te faire plaisir, c'est déjà quelque chose qui te touche et qui laisse des traces dans ton cœur que tu n'oublieras jamais. Alors que nos regards ne soient pas concentrés sur nos échecs, sur ce qui ne va pas, sur nos chutes, sur nos péchés dont tu nous purifies, mais bien, Seigneur, dans nos désirs de réjouir ton cœur, sachant que ce ne sera jamais perdu. Seigneur, nous te remercions pour le risque que tu as pris de nous donner toutes ces promesses parce que on pourrait devenir des gens très intéressés dans notre histoire d'amour. Mais tu as malgré tout pris ce risque parce que tu as décrit l'au-delà pour nous encourager, pour nous défier, pour nous fortifier, pour réjouir nos cœurs, pour nous alléger de nos fardeaux. Seigneur, merci pour ces promesses. Et que nos cœurs s'attachent à tes promesses, que nous y soyons attentifs, que ça devienne une nourriture quotidienne. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Nous qui allons à contre-courant de ce monde, fortifie en nous notre foi et notre amour pour toi, notre confiance en toi qui est digne de cela. Amen.